Bonjour à tous. Là, on est réunis là pour parler des pirates dont vous avez les. Alors, les personnages qui sont là sont pas les vrais personnages. Hein. Les vrais personnages sont à l'image. C'est pour essayer de comprendre qui c'est. C'est donc nous avons Jean-François Ukierzowski, scénariste.
C'est ça. Ouais.
Stéphane Douai, dessinateur. Et Marek, aussi dessinateur, quoi, voilà, qui commettent de la BD. Alors, juste pourquoi, première question, qui est plutôt une question un peu concrète, pourquoi vous appelez-vous les pirates ?
Les pirates, en fait, c'est parce qu'on est tous les trois des auteurs qui venons de la bande dessinée classique, qui avons eu des expériences avec des éditeurs classiques. Et à un moment de notre vie, on s'est rencontrés et on s'est dit... Et pourquoi pas essayer du moins de pirater ce système de l'édition classique et de faire nos bandes dessinées nous-mêmes en piratant en partie les intermédiaires et en ayant un contact plus direct avec notre public et nos lecteurs. C'était ça qu'on cherchait, un contact direct, comme des pirates qui vont à l'assaut d'autres navires, qui vont à une confrontation directe.
Donc maintenant, vous êtes passé en même temps, vous êtes toujours auteur de bande dessinée évidemment, mais vous êtes aussi éditeur et distributeur. Donc vous êtes confronté à quelque chose d'un peu plus de. Un domaine que vous connaissiez pas vraiment très bien, quoi.
Alors, on est auteur, on est éditeur. Pour l'instant, on est distributeur, c'est-à-dire qu'on distribue nos livres. On se rend compte aussi que pour plus de visibilité, on est obligé quand même de fonctionner, de prendre. Ce qui marche dans le système de la distribution. Et les livres qu'on présente cette année aux Utopiales, ce sont des livres que vous ne pouvez trouver qu'aux Utopiales pour l'instant et dans certaines très bonnes librairies, n'est-ce pas, Georges ?
Oui, oui, dans les très bonnes librairies, ouais, de Nantes et d'ailleurs, hein, il n'y a pas que nous. Hein.
Mais il y aura une sortie nationale dans toutes les librairies en France à partir de février-mars 2016.
D'accord.
En fait, on va fonctionner avec un diffuseur.
D'accord. Donc, maintenant, on va parler des livres. Et le premier que vous avez édité, ça s'appelle La Suite de Scolem. Alors, La Suite de Scolem, si tu peux nous mettre une image, Jean-François,
ou t'en as ? Oui, je vais vous montrer ça. Alors...
Si tu avais la couverture ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, La Suite de Scolem. Bon, alors déjà, le Scolem, c'est un nom qui fait enfin, très science-fiction, alors que finalement, ça n'a rien de science-fiction, parce que l'histoire est fondée sur le savant, un savant qui recherche, comment dire, une espèce de suite logique pour des apparitions. Quoi. Alors, et il semble que cette suite logique aurait serait quelque chose qui a un rapport aux mathématiques. Donc Jean-François, toi qui es prof de maths, tu vas nous expliquer ça.
Ouais, alors moi j'ai une formation scientifique, donc on le sent dans certaines de mes œuvres. Scolem, c'est pas inventé comme nom, c'est vraiment un mathématicien qui a existé, qui n'est pas forcément très connu. Il s'appelait Thoralf Scolem, mathématicien suédois, qui a créé une suite, qui a étudié, c'est toujours difficile hein, de savoir en mathématiques la part de création ou de découverte, qui a étudié une suite mathématique qui fonctionne sur le positionnement des murs, le positionnement des nombres dans une suite. Et pour résumer, je peux vous expliquer si ça vous intéresse en détail la suite de Scolem. C'est pas très compliqué en fait. Moi, ça me fait penser un peu au Sudoku. La suite de Scolem, c'est des petits problèmes de mathématiques. Il faut réussir à placer des nombres. On choisit un certain nombre d'entiers. On prend par exemple les 10 premiers entiers, on va de 1 à 10, et il faut réussir à placer ces entiers de manière à ce que l'écart entre deux entiers, l'écart entre 2, 1 par exemple, soit de 1 unité, l'écart entre 2, 2, 2 soit 2 unités, l'écart entre 2, 3, 3 unités. Et ce qui m'intéressait dans cette suite, et c'est pour ça que je l'ai pris pour l'argument du début de cette histoire, ce qui m'intéressait dans cette suite, c'est que la nature du nombre en lui-même, déterminait son positionnement. Et je voulais travailler justement sur cette idée dans cette bande dessinée, sur cette idée que le positionnement des personnages détermine leur nature. Alors, ça paraît très, très barré comme ça, mais en fait, quand on lit l'histoire, l'argument scientifique au tout début de l'album est un prétexte à de l'aventure, à de l'humour, et même à un récit entre proche de l'univers de Jules Verne. Moi, je suis nantais, il y a eu une influence vernienne très importante. Et voilà, c'est le prétexte mathématique est un prétexte à raconter une histoire avant tout.
Oui, oui, on se rend compte que c'est une histoire qui est... Bon, et c'est, on est, ce scientifique essaye de... Il y a des apparitions régulières.
Ouais.
Et il essaye de déterminer la régularité des apparitions pour les prévoir. Et empêcher cette apparition. Voilà, c'est ça le thème, quoi, finalement.
C'est ça. Alors, il y a une thématique qu'on retrouvera aussi, on en parlera après dans Ex Nihilo, c'est d'essayer de maîtriser l'espace. Il essaye de Ratmir, ce scientifique, là. Faut peut-être que je rentre un peu plus dans les détails, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette histoire-là. Ratmir est un scientifique qui, un jour, en se baladant dans la campagne, voit un être mystérieux lui apparaître. Il apparaît soudainement, comme ça, spontanément devant lui, et redisparaît aussitôt après quelques secondes d'apparition. Et Ratmir, qui a l'esprit cartésien, ne peut pas accepter cette idée. Il se dit, c'est pas possible que des choses surnaturelles surviennent. Et il décide de trouver une explication scientifique au surnaturel. Et il découvre que, c'est pour ça que je vous parlais de la suite de Scolem au tout départ, il découvre que ces apparitions, il y a quelque chose de rassurant finalement qui le rassure dans ces apparitions, c'est que ces apparitions obéissent à une suite logique mathématique. Donc il y a c'est pour ça que c'est de là que démarre l'aventure. Après, il y a une course-poursuite. Le scientifique, le vieux savant, va passer sa vie à calculer les lieux d'apparition pour essayer de rejoindre cet homme et d'essayer de contacter cet homme qui apparaît et disparaît.
Voilà. Donc, mais c'est quand même de la. Si tu peux nous montrer une planche ou deux, parce que c'est quand même. On va parler maintenant avec Marek qui a dessiné cette histoire. Marek, toi, tu as choisi un parti pris de dessin qui est hyper classique, parce que moi, quand j'ai lu ça, les références qui me sont apparues tout de suite, c'est Tintin et Blake et Mortimer, quoi. Dans l'histoire, quand on connaît un peu la bande dessinée, on est dans un dessin semi-réaliste, il y a de l'aventure, c'est trépidant, il y a plein de personnages, quoi.
Ouais, bah écoute, c'est mon style de dessin. C'est. Moi, je me considère comme un auteur Linclair, parce que c'est ça qui me plaît dans la bande dessinée. Enfin, mes lectures, c'est essentiellement des auteurs Linclair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se font rares. Enfin, ils se font rares à une certaine époque de la bande dessinée. Ils étaient plus nombreux. Et enfin, c'est aussi pour moi les BD de mon enfance. Et c'est un trait que j'affectionne, enfin c'est voilà.
Non, et puis ton trait de, on dit bien le style Linclair. Alors, quand on parle de Linclair, le Linclair, c'est le style de dessin qui est issu du journal de Tintin et Hergé à la base.
Voilà, quoi. Voilà, Tintin, enfin Tintin. Ouais, Franquin, ouais. Enfin moi je, ouais, voilà. Pour moi Franquin a une place un peu plus.
Ah, une place plus importante, quoi. Que mais ce qui est intéressant dans cette histoire, justement, qui a un côté scientifique, mais qui est aussi de l'aventure, c'est quand même ce dessin relativement, on va dire, très clair et très dynamique, donne beaucoup de rythme, finalement. C'est facile à mettre en place. Et le fait d'avoir choisi du noir et blanc aussi, ou une espèce de bichromie gris, donne aussi quelque chose à cette aventure de vraiment intéressant.
Alors, voilà. En fait, moi, ce qui m'a intéressé, en fait, quand j'ai rencontré Jean-François la première fois, quand j'ai lu ses premiers scénarios, je me suis dit, ça, c'est... C'est vraiment des scénarios de BD dans le style. Enfin, j'ai senti qu'il a pas voulu faire un scénario de film qu'il aurait ensuite adapté à la BD. J'ai senti qu'il avait compris ce que c'est la BD. Et donc, en fait, il faut le dire, c'est un projet qu'on a construit à deux, quoi. Enfin, je lui ai apporté les bases.
D'accord, ouais.
Et enfin, il est quand même entièrement responsable de l'intrigue et de l'histoire.
Ouais.
Responsable, donc si vous voulez vous plaindre, c'est lui qu'il faut aller.
Bon, c'est Jean-François. Okay. Si vous trouvez ça pas bien, c'est au scénariste qu'il faut s'adresser.
Il n'y a absolument aucune. Et donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un projet personnel parce que l'histoire, enfin sa façon de voir la bande dessinée et l'histoire correspond exactement pour moi à mon trait de dessin. Ça veut dire, on n'est pas dans la réalité, on est dans la bande dessinée, c'est-à-dire on accepte, on est prêt à accepter. Pour moi, c'est un récit non réaliste. On est prêt à accepter beaucoup de choses, quoi. Voilà, c'est...
Oui, oui, c'est très. Enfin, c'est pas fantasy au sens de heroic fantasy. Non, plutôt fantaisiste à la manière d'un Jacobs quand il fait la marque jaune, par exemple, où les personnages apparaissent. Il y a l'histoire de la suite de Scolem qui est quelque chose de très concret théoriquement, mais bon, après, nous, on s'en va dans de l'aventure finalement où on a envie de rêver, quoi. Voilà, donc, ouais, pour l'instant, on en est au premier tome. Et vous avez avancé sur le... Parce qu'à la fin, il y a quand même... On ne sait pas encore, vous avez avancé sur le second
ouais.
Oui, bah sur le second. En fait, on va être très franc sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'au départ, on voulait faire... Et je pense que tu vas être d'accord, Georges, toi qui es libraire avec ça. Tu penses que c'est la tendance aussi. Au départ, on voulait faire un très gros volume de 200 pages. On voulait faire 200 pages avec deux gros chapitres. Un premier chapitre 200 pages, un deuxième 200 pages. Et on nous a dit non, c'est pas possible. Enfin, l'état actuel de la BD, il vaut mieux découper votre album. Faut mieux faire un diptyque. Parce que si vous faites l'album de 200 pages, ça va être un album qui va être très cher. On nous a plus conseillé de découper l'histoire en deux parties. Donc c'est ce qu'on a fait, mais l'histoire au départ, elle existait. L'histoire était faite, le scénar était écrit dès le départ. Donc oui, la suite est en cours. Le scénar est écrit, le découpage aussi. Marek, tu me dis de prendre la parole, mais c'est toi qui... C'est plus
non,
toi
mais
qui
sur... je suis dans les temps. Et le deuxième tome devrait sortir donc, au mois de septembre. Et je ne suis pas en retard, donc il sortira au mois de septembre.
Non, mais enfin, pour répondre à ta question sur... Oui, moi, en général, par rapport aux clients, il vaut mieux vendre une histoire... Enfin, vendre, oui, leur faire acheter une histoire complète, ça, c'est beaucoup mieux. Bon, après, il y a une question de prix qui peut jouer. Il y a quelque chose... Après, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut vendre à un public plus jeune, plus adolescent, parce que l'histoire est quand même... Il y a les personnages principaux, on peut vendre ça.
C'est vraiment tout public, ça, ouais, voilà. C'est un album. C'est un peu en ça l'esprit Tintin, c'est-à-dire de 7 à 77 ans. Après, bon, c'est bien sûr, il y a une modernité quand même. On n'est pas dans un album de Tintin.
Non, vous n'êtes pas dans un album de revival ou vintage, quoi. Non, on est dans quelque chose qui est inscrit dans la réalité.
Et puis le fait de vouloir faire un diptyque aussi, ça rappelle aussi, puisqu'on parle de Tintin, ça rappelle aussi les grands épisodes de Tintin qui se coupaient en deux épisodes. Les 7 boules de cristal avec.
Bon, voilà. Alors, un truc qu'il ne faut pas faire, c'est annoncer l'intégrale trop tôt. C'est parce que les gens vont dire on ne va pas acheter les albums, on va attendre l'intégrale. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, bah, écoutez, la suite de Scolem, moi je vous encourage les gens qui sont curieux et puis leurs enfants à le découvrir parce que c'est vraiment un album très plaisant, très dynamique avec beaucoup de vivacité et beaucoup de choses qui rappellent aussi des souvenirs de lecture d'enfance. Deuxième album là qui vient tout juste d'arriver là, ça s'appelle Ex Nihilo. Voilà. Alors ça c'est un projet plus. Alors autant dans la suite de Scolem il y a un petit côté un peu irrationnel plutôt par les histoires des apparitions, autant dans Ex Nihilo on tombe dans la science-fiction pure. Hein. Là on est dedans. Ex Nihilo, ça vient du latin. Si vous pouvez expliquer ce que ça veut dire.
Bah ça veut tout simplement dire qu'il vient de nulle part, quoi.
Qui vient de nulle part.
Voilà.
Donc le propos de cet album Ex Nihilo, c'est l'introduction. On est en 2015. Il se forme un groupe de scientifiques qui va vouloir faire des voyages dans le temps. Si je résume bien le pitch, c'est ça ?
C'est ça, oui. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que il y a plusieurs liens entre les deux albums. Donc, il y a lien entre Scolem et Ex Nihilo, il y a le lien des éditions pirates. Il y a le lien aussi du scénariste. Je scénarise les deux albums. Donc, la suite de Scolem, c'est avec Marek.
Ouais.
Ex Nihilo avec Stéphane. Et je pense que tu disais que on était totalement dans un autre univers. Oui, on est dans un autre style. Mais en même temps, il y a je pense qu'au niveau du scénar, il y a une thématique encore. Je disais tout à l'heure que la suite de Scolem, c'était une thématique autour du positionnement, de la maîtrise de la position, de la maîtrise de l'espace. Et là, il y a les personnages ont ce constant souci de maîtriser le temps, quoi. Et comme on sait que l'espace et le temps sont liés, je trouve qu'il y a des liens très forts entre les deux albums.
D'accord, ouais, oui, on reste dans des thématiques qui intéressent les scientifiques. Alors donc là, c'est un groupe de scientifiques qui décide de faire voyager dans le temps un personnage qui est en prison, hein, c'est un prisonnier, on va l'envoyer dans le temps. Et donc l'album est découpé en plusieurs chapitres qui sont chacun une mission qui est confiée à ce personnage. Et alors la première mission qui va lui être confiée, elle est quand même très intéressante. Ils disent, pour voir ça, on va l'envoyer tuer son père. C'est ça. C'est ça à peu près. Donc, ça donne carrément. Je pense que quand les gens le liront, ceux qui le liront, vous avez quand même une dimension un petit peu second degré dans cette histoire. Parce que déjà, pourquoi envoyer un personnage tuer son père ? Quel est le but de la mission des scientifiques, là ?
Alors là, oui, on est plus dans l'humour second degré. Plus peut-être que dans la suite de Scolem. le truc, c'est que, comme tu disais, c'est des petites histoires, c'est des histoires courtes, mais en même temps, c'est qu'une seule histoire, parce que toutes les histoires sont liées. Et le principe de départ, donc, c'est un condamné à mort qui est récupéré, on lui propose, contre une remise de peine, de tester des paradoxes temporels. On retrouve d'ailleurs un peu ce thème-là dans le film L'Armée des Douze Singes. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, Bruce Lewis.
Parce qu'à chaque fois qu'il part en mission, il tombe dans un bar qui s'appelle l'Armée des Douze Bonobos.
Il y a un clin d'œil.
Il y en a plusieurs. Donc,
Et les paradoxes temporels qu'on lui demande de tester sont très dangereux finalement, parce que c'est des paradoxes qui peuvent le faire disparaître. On voit ça dans beaucoup de films ou de livres de science-fiction. On lui demande, la première mission, c'est tu vas tuer ton père. Alors, ça peut paraître complètement farfelu, mais l'idée derrière tout ça, c'est si tu tues ton père avant ta naissance, tu ne pourras pas naître. Si tu ne peux pas naître, tu ne pourras pas voyager dans le temps. Si tu ne peux pas voyager dans le temps, tu ne pourras pas tuer ton père. Il y a une espèce de boucle, ce qu'on appelle les boucles de causalité. C'est ce que veulent tester les scientifiques, en fait. Ils veulent tester sur un cobaye humain si c'est dangereux de changer le passé et si ça influence l'avenir. Donc toutes les missions sont... mais après, j'ai rien inventé là-dessus. Ce sont des grands thèmes, des paradoxes temporels qui ont été déjà traités dans la littérature. On trouve ça aussi dans Retour vers le futur, dont on a beaucoup parlé là, il n'y a pas longtemps. Il y a Marty McFly qui part dans le passé et sa mère tombe amoureuse de lui.
McFly, mais ton héros s'appelle MacMouche.
Voilà.
Donc il y a plein de clins d'œil comme ça.
Et donc, le héros s'appelle MacMouche. Et en hommage à Marty McFly. Donc c'est des histoires un peu délirantes. Et le principe, pourquoi toutes les histoires sont liées les unes aux autres, c'est parce que pour simplifier les choses, les scientifiques ont décidé d'envoyer ce condamné à mort toujours au même endroit. Ils disent, ça va être plus simple, tu connais les lieux. Premier voyage, on t'envoie dans le bar des 12 bonobos. Ouais. On sait que ton père a pris un verre dans ce soir-là, là-dedans. Donc tu vois. Puis le deuxième voyage, on lui dit aussi, t'es déjà allé là-bas, tu vas retourner là-bas parce que tu connais le terrain.
Ouais, il faut quand même préciser qu'à chaque fois, la mission ne se passe pas comme les scientifiques le prévoyaient.
Oui, il y a un effet cumulatif, étant donné qu'on l'envoie à chaque épisode, on l'envoie au même endroit. Il se retrouve en plusieurs exemplaires au même endroit, il se retrouve... lui-même.
Il y a plein de choses qui sont assez complexes là. Alors le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe de la mère.
Ouais.
Évidemment, après le père, on a la mère. Le troisième, c'est le paradoxe de l'écrivain.
Ouais.
Ça aussi, il y a quelque chose sur la création artistique. À chaque fois, tu vas avoir quelque chose. Le quatrième, c'était le paradoxe. Attends, je pense, tu l'as en tête. Attends, je recherche.
Après, il y a des le paradoxe de la.
De la limace.
De la boucle aussi.
De la boucle et de la limace, ouais. Bon, moi, chacun est un élément complet de l'histoire, quoi. Donc, et là, on va parler maintenant un peu avec Stéphane des choix graphiques pour cet album, quoi. Là, on a un dessin un peu plus réaliste que dans la suite de Scolem, mais sans tomber dans un dessin quand même très... très précis, très fouillé, quoi. T'as quand même un dessin qui fait que les personnages sont très dynamiques, mais voilà. Comment toi, tu as choisi de faire ces personnages comme ça pour...
Alors, comme on parle de voyage dans le temps,
ouais.
Je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière sur l'histoire des... Pourquoi les pirates ?
Ouais.
Il y a effectivement cette notion de distribution, de diffusion, mais il y a aussi ce que représentent les pirates sur un bateau. C'est-à-dire, on est tous à égalité. Il y en a pas... Moi, j'ai effectivement dessiné Ex Nihilo, mais la suite de Scolem, c'est aussi mon livre, si je ne l'ai pas dessiné.
Donc on est
tous investis de la même façon. Alors ça peut paraître un peu utopique, justement, un petit peu comme, mais c'est réel. On est tous investis de la même façon sur les projets qu'on monte, quoi. Voilà. Bon, ça c'était juste un petit détail. Après, la façon dont j'ai travaillé cet album-là était un peu particulière parce que j'étais parti sur l'idée de travailler avec des couleurs à l'ordinateur et par un hasard incroyable la coloriste qui devait travailler sur cet album a disparu dans le temps. Elle s'est retrouvée en 1912 je crois sur le Titanic, on l'a jamais revue. Donc du coup j'ai dû repenser le projet et puis de travailler les couleurs d'une autre façon, donc de travailler ça à l'aquarelle. Ce qui donne un résultat, en fait, qui n'était absolument pas celui du départ.
Moi, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, parce que c'est vrai que quand on travaille avec un dessinateur, on discute de comment, quelle est son idée de graphisme. Et tu m'avais dit, je vais peut-être partir sur quelque chose avec beaucoup d'aplats de noir à la Hellboy, tu m'avais dit. C'était la référence qui se rapproche du comics américain. Et quand on voit les planches en noir et blanc, là, quand on voit des cases, ouais. C'est vrai que... Il y a des contrastes entre les noirs et les blancs, des aplats.
Non, on a quelque chose qui me semble un peu plus noir presque quand on le voit comme ça, par rapport à la tonalité de l'album. Hein.
Oui.
Parce que l'album est en couleur. Hein, mais là,
en couleur, oui, ce qui donne un côté plus.
En couleur directe.
Oui, en couleur directe. Ouais. Couleur directe, pour expliquer aux gens, c'est-à-dire qu'on prend le dessin noir et blanc, la planche, et on applique les couleurs directement dessus, au lieu d'en faire une copie et de le faire, faire les couleurs après, soit sur un bleu, soit sur Photoshop ou sur ce qu'on veut. Quoi.
En l'occurrence, là, on a quand même fait des copies. Voilà, d'accord. Les planches originales, elles sont en noir et blanc, mais il y a une copie où, sur laquelle j'ai mis des couleurs à l'aquarelle, quoi, et aux encres. Ouais. Voilà.
D'accord.
Et ce que j'avais envie pour garder une espèce d'unité, de monde un peu étrange, c'est de pas saturer de couleurs, mais d'essayer d'avoir juste des gris colorés avec quelques teintes comme les cheveux du personnage qui ressortent parce qu'ils sont un peu plus saturés.
Ouais.
Et rehausser un petit peu les planches par juste une teinte.
Ouais, des teintes un peu assez nuancées, quoi. Il y a pas c'est pas des teintes à la manière quand on parlait tout à l'heure des années 60 où on avait les trois couleurs principales et puis c'est ça. Là, quand même des teintes qui sont quand même très nuancées justement pour garder le côté dynamique et surtout aussi souligner un peu le côté un peu humoristique de cette histoire.
Oui, voilà. Et essayer de trouver aussi parce que comme les histoires se passent dans deux endroits finalement.
Oui, il y a le
vaisseau spatial près du trou de verre dans lequel ils sont, voyagent dans le temps et puis le bar des 12 bonobos.
Ouais, voilà. Donc voilà, non mais c'est assez réussi à ce niveau-là. Alors par contre, comment dire, il y a beaucoup de personnages dedans parce qu'il y a quand même tous les scientifiques, il y a Macmouche, il y a Carling. Il y a énormément de personnages et il a fallu que toi tu travailles quand même pour leur donner à chacun. Souvent en bande dessinée, quand il y a énormément de personnages, il y a des confusions entre les personnages. Donc il faut leur trouver à chacun un caractère graphique qui est vraiment spécifique. Tu as beaucoup travaillé là-dessus, quoi.
Bah, ce qui était un petit peu compliqué au départ, c'est de trouver espèce de coiffure, espèce de costume qui soit un peu différent. D'une année, d'une époque à une autre.
Oui,
quoi,
parce qu'on passe de 2015 à 2045 à chaque fois. On passe à 30 ans
donc
plus tard.
Il y a d'avoir des codes comme ça qui soient un peu différents, tout en n'étant pas des choses qu'on peut voir tout le temps, avec des codes de SF très marqués, quoi.
Oui, non, t'as pas fait comme dans le bar, comme dans Star Wars. Le bar, c'est pas que des êtres extraordinaires avec des tentacules et des trucs comme ça.
Voilà.
Non, le bar, il pourrait presque être maintenant, parce qu'on rend les personnages.
Moi, j'ai fait un personnage, par exemple, avec une jupe. Mais c'est un homme.
Oh, ouais.
Je suis complètement fou, mais j'assume.
T'assumes complètement, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça donne une grande clarté au niveau de la lecture, parce que pour retrouver les personnages, non, toute l'histoire de gémilité, enfin. Bon, alors il y a plein de choses assez, comment dire, très riches dedans au niveau du contenu. C'est-à-dire qu'entre le paradoxe du père, le paradoxe de la mère, et donc là aussi, le récit est fait que finalement, ça fonctionne un petit peu comme des flashbacks. Entre tout ça, parce qu'on apprend pourquoi il a été condamné, parce qu'il va dans le futur.
Ouais.
Moi, ça m'a semblé intéressant au niveau du ressort dramatique et du récit, quoi.
Bah, au niveau du scénar, c'est construit un peu comme une mosaïque, en fait. C'est-à-dire que chaque histoire représente un petit morceau qu'on ne comprend pas forcément, et on comprend l'ensemble. C'est encore cette histoire de bande dessinée qui est vue dans sa globalité ou dans le détail, mais... On a eu des discussions là-dessus. Chaque histoire est un morceau de la mosaïque. Et quand on regarde le morceau, on voit pas ce que ça représente dans l'ensemble. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que toutes les histoires sont liées. Parce qu'effectivement, toi, tu vois ça comme des flashbacks. Mais c'est parce que dans cette histoire, il n'y a pas de flashback. C'est le temps qui n'existe plus. C'est le voyage dans le temps. Donc, comme il retourne toujours au même moment, il y a des choses qui se repassent. Il y a aussi des événements qui se passent à nouveau. Et qui sont vus d'un autre point de vue. Ça s'est fait aussi, on voit ça, je ne sais plus avec qui j'en parlais il y a quelques temps, on voit ça dans les films de Tarantino aussi. C'est vrai que tout le monde trouvait ça amusant d'avoir une scène. Moi, je me souviens, on voit ça dans Jackie Brown, ou même dans Pulp Fiction, des scènes qui sont racontées d'un point de vue, et après, on n'avance pas dans le temps, on revient un peu en arrière, et on raconte la scène vue du point de vue d'un autre personnage. Cette histoire de voyage dans le temps, ça permet ça aussi de changer les points de vue, d'être dans un bar, le bar des 12 bonobos, à tous les endroits à la fois. Voilà.
D'accord, ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est pas un recueil de nouvelles, hein, faut le dire, c'est un recueil d'histoires qui forme un tout finalement. Donc voilà. Tu voulais dire quelque chose?
Non, je voulais juste te dire, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-François par rapport à la globalité. Parce qu'en fait, c'est une espèce de mise en abîme, finalement, parce que c'est des voyages dans le temps, mais la bande dessinée, quand on regarde une planche de bande dessinée dans sa globalité, il n'y a pas de temps et tout se passe en même temps, finalement. Et il n'y a qu'à partir du moment où on va commencer à créer un mouvement par la lecture, d'une case après une autre, qu'on crée un mouvement, donc on crée une temporalité, on crée du temps. Mais finalement, avant de commencer la lecture d'une bande dessinée, il n'y a pas de temps, tout est là en même temps, finalement. Donc c'est une espèce de mise en abîme comme ça. Mais il n'y a que dans la bande dessinée qu'on peut le remarquer. Parce que quand on lit un livre, on ne peut pas voir que tout est là en même temps, puisque c'est une suite de mots et le sens vient à partir du moment où on commence à lire. Et au cinéma, on ne peut pas s'en apercevoir parce qu'on est obligé de suivre les 24 images secondes. Il n'y a uniquement que si on regarde la pellicule qu'on voit que tout est là en même temps, finalement.
D'accord, ouais.
Donc voilà.
Ouais, d'accord. La globalité de la BD...
Je peux le dire à l'envers. Oh, c'est je sais pas de palette. Merci d'applaudir.
On va laisser les applaudissements finir. Donc cet album, Marek, toi, alors que, comme vous êtes trois éditeurs, là, tu disais tout à l'heure que tu étais concerné. Est-ce que toi, tu as été concerné par cet album? Tu t'es impliqué en tant qu'éditeur? Est-ce que tu as jeté un œil dessus ou pas?
Bah. Moi, je me sens concerné, comme il disait, par tous les albums. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas rentré dans la fabrication parce qu'on est quand même... chaque auteur, en même temps, c'est ça aussi pourquoi on a monté les éditions Pirates, à la maîtrise de son projet. Après, on en discute, on en parle, on se donne des conseils. Voilà, couverture cartonnée, pas couverture cartonnée. On se montre nos planches. Enfin, bon, voilà... Il y a un partage, mais c'est vrai que, enfin, après, c'est suivant le caractère de chacun. Mais enfin, moi, enfin, le travail de Stéphane, bon, il a un peu plus d'ancienneté que moi. Pour moi, c'est un travail irréprochable. Vraiment irréprochable.
Donc, chez vous, la relation quand même entre le scénariste et le dessinateur est quand même relativement proche. Elle est vraiment très. Elle est vraiment très proche par rapport. On connaît des gens qui travaillent à distance, où le scénariste envoie son truc, le dessinateur n'a qu'à faire la mise en page. Tandis que vous, c'est plutôt quand même.
La difficulté avec les pirates comme ça, c'est qu'on est six et on n'habite absolument pas les mêmes endroits, quoi, justement. Ouais. Donc, il faut qu'à un moment on puisse se retrouver. Donc, il y a des moments comme ça, on se retrouve. On organise aussi des journées pirates, c'est-à-dire qu'on fait. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que la structure éditoriale des éditions pirates, elle est en deux parties. Il y a une partie qui est le livre, comme on voit là, et il y a une partie sur laquelle on travaille actuellement, qui est le spectacle. Et donc, on adapte certains des livres en spectacle, comme le premier qu'on a fait, qui n'est pas là, qui n'est pas une bande dessinée, qui s'appelle X. Et le X, c'est. Qu'est-ce que le X dans Astérix? La lettre X. Et donc l'auteur, qui s'appelle David Latini, a travaillé sur ce livre et travaille maintenant sur une conférence spectacle pour expliquer un petit peu comme une extension du livre. Et donc à des moments donnés, il faut quand même qu'on se retrouve. Alors là, vivent les moyens modernes comme Skype et des choses comme ça, où on peut se faire des réunions et tout le monde est au courant de ce que fait tout le monde finalement. Voilà. Un travail d'équipe à 6, c'est encore plus compliqué
un peu plus compliqué.
Et là, je reviens sur ce que tu disais, sur le fait qu'on travaillait de manière assez soudée et que ce n'était pas toujours le cas, parce que souvent, ça arrivait en bande dessinée, ça peut arriver qu'un... Moi, j'en ai rencontré des dessinateurs qui n'ont jamais rencontré leur scénariste réellement avant la sortie du livre. Ce qui fait aussi que les éditions pirates, on est soudés, c'est que avant même d'avoir des projets ensemble, on avait envie de se connaître. Et je pense que c'était ça, quoi. C'était une aventure humaine avant de se lancer dans le domaine artistique. Et moi, j'ai besoin de ça. Moi, en fait, je serais incapable de travailler avec un dessinateur. Je serais incapable d'être, par exemple, engagé par une maison d'édition.
D'accord.
En me disant, tu vas écrire ça pour un tel, qui pour moi est juste un nom, quelqu'un que je connais pas.
T'es un pirate, t'es pas un mercenaire. Quoi.
Et moi, il me faut du temps pour connaître les gens, pour pouvoir aussi écrire un scénar qui correspond à la personne. Il faut le temps de connaître cette personne, quoi. Et je sais que par exemple Ex Nihilo, c'est une histoire que j'aurais pas pu proposer à Marek, et pareil la suite de Scolem, j'aurais pas pu la proposer à Stéphane. Ces histoires que j'ai proposées, c'est parce que avant ça, on a mis des années à se connaître. C'est un travail aussi. Il y a une dimension humaine, je trouve, dans cette aventure, dans les aventures des pirates.
Ouais, je pense que quand on crée une entreprise, finalement, c'est une entreprise que vous avez créée. Hein.
Alors pour les histoires d'argent, c'est Marek. Okay.
Non, mais
nous, on est juste.
Vous êtes juste les artistes et c'est lui. Voilà. C'est un peu comme dans Flux Glacial. Alors il y avait les artistes et puis il y avait, comment il s'appelait, Diamantovitch qui gérait tout l'argent. Non,
c'est celui qui nous ramène à la réalité.
Est-ce que vous avez plutôt tendance à partir dans le paradoxe et dans le voyage dans le temps, vous?
Voilà. C'est ça.
En continuant à parler du voyage dans le temps, ces deux albums sont disponibles actuellement. Là, qu'est-ce qui se profile dans les temps prochains en production, en envie, en souhait?
Alors, on a commencé les éditions pirates, comme le disait Jean-François tout à l'heure, en essayant de faire autrement. On se rend compte maintenant, ça fait un an et demi qu'on a commencé à discuter de ça. Au bout d'un an et demi, on a 3 livres, ce qui est quand même pas mal.
Très bien, oui.
Mais au départ, on avait, comme tout projet, plein de rêves en se disant « on va faire autrement, on va squeezer les intermédiaires et tout ça ». Et on s'aperçoit que cette force, elle est puissante. C'est très très difficile de faire autrement comme ça. Et pour pouvoir faire autrement, il faut connaître le système déjà. Donc finalement, on revient un petit peu en arrière, on prend un diffuseur, on va voir comment ça fonctionne, on voit de l'intérieur, on s'occupe des bouquins et tout ça, et puis... on a commencé, pour avoir un petit peu de fonds, par lancer une souscription où on avait 4 livres pour 50 euros. Donc il y a des gens qui ont souscrit pour 4 livres, nous ont fait confiance finalement, puisqu'on n'avait rien. Et donc là, on a 3 livres. Il y a le quatrième qui doit sortir en juin prochain, qui est un livre de peintre, une BD sur la peinture, l'histoire d'un peintre, par un peintre.
Alors, tu me parles de peinture, sans bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui vient d'arriver depuis un an à peu près. On a vu, je ne vais pas dire explosé, mais moi j'ai bien reçu une boîte 10 ou 12 ou 15 bouquins qui parlaient de peinture, quoi. S'il y a une collection chez Glénat, il y a une sur le Caravage.
Donc on oublie ce que je viens de dire, on va faire autre chose.
Non, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui semble arriver en bande dessinée actuellement. La peinture commence à intéresser les éditeurs, ouais. Et pourquoi un truc sur la peinture, quoi, finalement?
Comme disait Jean-François tout à l'heure, c'est une histoire humaine. Ouais. Le peintre en question, c'est un ami depuis des années. Ouais. Moi, en fait, j'avais envie de faire les pirates et j'avais envie de réunir des gens avec qui je peux travailler, avec qui j'ai des liens d'amitié, justement, des liens forts, quoi. Et Pascal Follet, le peintre qui est en train de travailler sur cet album, c'est ça, quoi.
Ah, mais c'est un peintre vivant, quoi.
Oui, il est vivant. J'espère. Alors, je vais l'appeler, on ne sait jamais.
Tu nous mets le doute, là.
Donc, en fait, pour revenir sur cette souscription, on a fait une souscription sur les 4 albums. Le 4e va bientôt sortir. Et comment? Ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire.
C'est pas grave. Non. C'est parce que t'es parti dans un autre temps.
Ouais, je sais plus.
Tu sais plus, ouais. Moi, il y avait quelque chose là qui m'avait intrigué là dans l'album. Là, c'est le comment dire. Il y a des portraits de personnages aussi assez rigolos, quoi. Il y a étudiante en médecine. Si vous aimez les autopsies, appelez-moi. J'ai plusieurs cœurs à vous offrir. Donc, c'est un album. Il y a quand même pas mal d'humour. Hein. Pro de l'informatique, aime la coiffure, la lecture, la peinture et la biture.
Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, non, je quitte cette salle immédiatement.
Alors, moi ça en plus.
C'est qui celui-là? Alors,
c'est Marek qui a écrit tout ça.
Evan Treborn, ma passion, la physique des particules. Mon autre passion, la physique des petits culs. Bon, c'est de qui ça, ces jeux de mots un peu à la Audiard?
En fait,
un peu...
là, il fallait. Là, tu lis des cases où.
C'est des portraits sur Facebook. Hein.
Ouais. Voilà, le héros va sur Facebook et trouve le profil de plusieurs personnes. Et moi, j'en avais pas mis plus que ça dans le scénar. Donc, du coup.
C'est des choses que j'ai rajoutées.
Donc, du coup, Stéphane, il avait à compléter.
Pour m'amuser. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est les dessins de l'album. Enfin, de détachement, justement, de l'album qui sortira en juin.
L'album sur le peintre.
Voilà.
D'accord.
Et oui, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que ces albums-là, s'ils sont sortis maintenant, celui-là, Ex Nihilo, c'est parce qu'on a des souscripteurs.
Ouais, d'accord.
C'est pour qu'ils puissent l'avoir maintenant. mais il sera diffusé qu'à partir de février.
Okay. Il y avait aussi une notion là, il y a le, attends, que je retrouve plus exactement le terme, le clucibrique ou quelque chose, non, c'est le clucibrique.
Cyclic brique.
Le cyclic brique, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça?
Alors ça, ça c'est... tout à l'heure je me défaussais des gags pourris de Stéphane, mais ça j'en ai fait aussi.
Ouais.
Non, non, c'est un des paradoxes temporels. Ils veulent tester si quand on envoie un objet, voilà, les savants, alors c'est toujours compliqué à expliquer. Les scientifiques demandent à leurs cobayes d'aller dans le temps, de retourner dans le passé, de prendre un objet, de le ramener dans le futur, et eux, les scientifiques, ils se chargent de remettre l'objet au même endroit juste avant qu'ils le prennent. Ils veulent créer une boucle temporelle qui fait que l'objet est sans arrêt pris et remis à sa place, et ils veulent voir si l'objet, au bout de pris dans cette boucle temporelle, va tomber en miettes, va tomber en poussière. Parce
ouais,
que,
s'il va se déformer, quoi.
Voilà, donc c'est un paradoxe temporel qui existe. Et puis moi, j'ai inventé, on va appeler ça la cyclique brique, parce que le savant dit c'est comme une brique de l'univers qu'on détache et qu'on projette dans un cycle. Donc voilà, c'est une cyclique brique. Donc allez chercher la cyclique brique. Et puis Macmouche dit, tu veux vraiment que je raconte le gars? Macmouche dit, bah oui, mais alors à quoi elle doit ressembler la cyclique brique? Est-ce que la cyclique brique tient dans la main? Bah, si vous voulez, ouais, ça sera plus pratique.
Est-ce que la cyclique brique peut être verte?
Ouais.
Mais
pourquoi vous me posez toutes ces questions? Non, pour rien, c'est pour faire avancer la cyclique
brique. Bon, d'accord.
Donc les plus anciens comprendront le clin d'œil.
J'ai mis 3 jours à m'en remettre.
Non, mais c'est difficile à comprendre tout
ça. Mais là, j'en vois des jeunes qui ne comprennent pas. Là.
Non, si, vous comprenez?
C'est un ancien sketch de Coluche.
Ça s'appelait le Schmilblick.
Sur le Schmilblick.
Qui était une parodie d'un jeu qui s'appelait le Schmilblick. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, vous avez quelque chose, vous voulez dire quelque chose d'important maintenant, qui vous tient, vous avez dit l'essentiel, ou encore plus, si vous voulez.
On a encore 4 livres à dédicacer, si ça intéresse des gens. Voilà.
Il vous en reste que 4?
Ouais.
Non, il ne nous en reste pas que 4. Enfin,
non, j'en ai 200 dans le coffre. Mais
tu vas aller les chercher, parce qu'il y a 200 personnes qui vont arriver tout de suite. Là. Voilà.
Non, alors si, moi je pourrais ajouter, donc il y a le livre de Pascal Follet, qui nous fait un livre qui sera très très graphique, très proche de l'univers du peintre, qui sortira
en juin
prochain. Et puis aussi, on parlait de la suite de Scolem qui est en 2 tomes, donc le deuxième tome sortira en septembre 2016. Donc il faut attendre encore un peu, mais en moins d'un an, il y aura le deuxième et dernier tome. On va pas
la fin, on va clore l'histoire du Scolem.
Voilà.
Ok. Ben, si certaines personnes ont des questions à leur poser à ces jeunes gens. Oui, ça tient.
Oui, j'ai lu la suite de Scolem. Je me demandais, j'ai pas vérifié, pourquoi ce choix d'une Europe de l'Est là? Est-ce que c'est des lieux réels ou est-ce que c'est des lieux imaginaires, les villes dont il est question?
La suite de Scolem dont se déroule à Lviv, c'est une ville d'Ukraine. Moi, je voulais absolument, à la base de cet album, je voulais absolument dessiner des villes baroques. Enfin, en France, on n'est absolument pas habitué à l'architecture baroque. Moi, j'aime beaucoup l'architecture assez, plutôt ancienne. Et le baroque, je trouve que c'est absolument... Ouais, il y a un côté vraiment... En plus, le baroque un peu décrépit, un côté mystérieux, ça pose une ambiance un peu surannée, mystérieuse. Donc moi, on voulait absolument une ambiance d'Europe de l'Est. Enfin, en Europe de l'Est, on trouve beaucoup de villes baroques. Et en même temps, il ne fallait pas une ville trop touristique parce que c'est une ville mystérieuse, donc un peu silencieuse. Bah, un peu irréelle. Au début, on avait pensé à Prague, mais bon, c'était pas possible. Donc... voilà, on avait choisi Lviv, mais c'était vraiment un désir, par contre là, purement graphique de dessinateur. Et il se trouve qu'on a des liens avec l'Europe de l'Est.
Oui, alors, et puis la ville de Lviv, alors moi, ce que dit Marek, c'est exactement ce qu'il m'a dit quand il m'a expliqué ce qu'il voulait comme décor. Après, merci Internet, quoi, parce qu'au départ, on n'est pas parti en Europe de l'Est pour trouver notre ville, quoi. On a cherché sur Internet... une ville, il y avait des critères très précis finalement, hein. Une ville en Europe de l'Est, alors on va expliquer pourquoi, quels sont nos liens avec l'Europe de l'Est, qui n'était pas touristique mais qui avait quand même des bâtiments très baroques. On est tombé sur Lviv, Après, ce qui est amusant, c'est
Il fallait aussi qu'il puisse y avoir une faculté de médecine dans cette ville, donc une ville assez grande.
Pour l'histoire, ouais. Après, ce qui est amusant, c'est que Marek, il a commencé à bosser sur l'album. Il a beaucoup travaillé sur, à partir de documents, de plans de ville, d'images, de photos qu'il a récupérées sur Internet. Et le travail était bien avancé, alors qu'il n'était jamais allé à Lviv. Et il est parti à Lviv.
Il fallait que je puisse reconstituer la ville sans jamais y être allé. Donc, je récupérais des photos sur Internet. Et j'arrivais. Et ensuite, j'ai pris un plan de la ville pour pouvoir. Parfois j'avais un bout de bâtiment sur une autre photo, j'avais le même bout mais vu d'un autre côté, donc j'ai réuni les photos par j'ai pris un plan de la ville par rue, par place, et donc je connaissais la ville quasiment, enfin pas par cœur, mais le centre-ville je le connaissais quasiment par cœur sans jamais y avoir été. Et j'ai eu l'occasion en 2012 ensuite d'aller vraiment physiquement dans cette ville, et ça donne une sensation étrange où on connaît une ville où on n'a jamais été. On se repère, on dit voilà, là-bas je sais que c'est la rue, on connaît même le nom des rues, c'est vraiment particulier. Et en plus, donc, on en parlait hier, je marchais dans cette ville et j'avais l'impression que mes personnages allaient débouler d'un coin de la rue. C'était vraiment une belle expérience.
Donc voilà pour la ville. Après, pour le choix de l'Europe de l'Est, il y a plusieurs explications. D'abord, la première, la plus simple, c'est qu'on a des liens à la fois Marek et moi. Moi, c'est peut-être plus transparent vu mon nom. Je suis d'origine polonaise. Mon père est arrivé en France dans les années assez tard, finalement dans les années 70. Il y a une culture de l'Est quand même qui m'a été transmise de par mon père. Et Marek aussi a cette culture de par sa femme qui est russe.
On a
pas mal voyagé chacun de notre côté dans ce coin-là. Et il y a une autre explication aussi, c'est que la suite de Skolem, pourquoi cette histoire ne pouvait pas se passer ailleurs que dans les pays de l'Est, c'est que la suite de Skolem, ça, comme je commençais à l'évoquer tout à l'heure, c'est une histoire de réflexion sur le positionnement spatial, sur le territoire, la Terre. Pourquoi on se trouve là à tel endroit, comme une suite de nombres qui se trouve à tel endroit. Il y a même, on n'en a pas parlé, mais il y a des événements surnaturels qui se passent dans la suite de Skolem. Il y a des objets qui s'enfoncent dans le sol. Quand il va y avoir une apparition de l'homme mystérieux, les objets se fondent dans le sol. Et l'histoire des pays de l'Est, quand même, il y a une histoire qui est très, très liée avec le sol, le territoire. Il y a cette dimension-là aussi sur... Quand on va dans les pays de l'Est et qu'on parle avec des Russes ou des Polonais ou des Ukrainiens, il y a cette notion de le territoire, le sol auquel j'appartiens. On retrouve ça. Je ne sais pas si tu peux confirmer, mais...
Tout à fait. Et puis juste une précision. Donc le tome 2 se passe dans une ambiance totalement différente puisqu'on a... Donc on se déplace toujours un petit peu dans les Balkans, en fait, sur la côte croate. Donc on est toujours un peu dans une espèce de slavitude, mais avec des paysages colorés, méditerranéens, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus contrasté, voilà, une ambiance, voilà.
Et puis peut-être pour conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions. Et pour conclure, donc vous avez le projet avec Follet là, sur le dessin. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore qui sont... en train de s'initier ou pas, ou des envies de faire quoi
Pour le moment, c'est déjà beaucoup de travail de faire ces livres-là. Comme je le disais tout à l'heure, l'organisation est assez compliquée. On n'est pas super balèze dans tout ce qui est administratif. Heureusement, il y a des gens qui sont de bonne volonté et qui nous aident. Parce qu'il faut dire aussi que monter un projet comme ça, on ne se paye pas là-dessus. C'est un projet bénévole pour les auteurs. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Alors pour le moment, on travaille sur ces quatre livres-là. Après, on verra ce qui se passe. On reçoit déjà des projets.
Vous recevez des projets, ça c'est bien.
Mais on ne peut pas y répondre parce qu'il faut vraiment investir au même niveau que nous, dans une même motivation pour pouvoir accepter de faire un album gratuitement et après aller le défendre, etc., etc. Donc, pour l'instant, on se concentre sur ces quatre livres-là. D'accord. Et ensuite, on verra comment les choses se passent.
Bon, eh ben, écoutez, on va encore Ah oui, pardon, madame.
Merci, bonjour. Donc, une question qui me vient à l'esprit. Donc, vous avez beaucoup réfléchi à votre organisation pour créer la bande dessinée, la gestion d'illustrateurs, la démarche pirate. Comment vous avez réfléchi à l'impression des livres? Où sont-ils imprimés? Est-ce que vous avez un lien privilégié avec certains imprimeurs?
Là aussi, c'est la même question de départ. Dans cet idéal qu'on avait d'éthique, on ne va quand même pas aller faire travailler les gens à l'étranger. Nous, Français, le machin, le bordel, on va faire travailler les gens en France, les imprimeurs français. Donc on a commencé à se confronter à la réalité à un moment donné, notamment pour la suite de Scolem, etc., où on a vu qu'en France, les imprimeurs étaient très très chers. Donc on a commencé à se dire comment on fait par rapport aux moyens qu'on avait, les moyens financiers, et quel compromis on peut avoir pour avoir des livres de qualité à un moindre coût. Voilà. Donc Marek a essuyé les plâtres finalement. On a essayé plusieurs imprimeurs. Ça n'a pas été imprimé en France, mais le Ex Nihilo aussi. On a quand même trouvé un imprimeur avec qui on pouvait s'entendre en France et qui fait un travail de qualité. Donc, c'est notre troisième livre. Donc, on apprend aussi sur le tas. On fait des erreurs, quoi. Et puis, on les accepte parce que c'est la règle du jeu aussi. On va pas se fouetter. Voilà.
Donc, oui, en fait, la suite de Scolem a été imprimée en Bulgarie. Ça nous a posé problème, en fait. C'est pour ça qu'après Ex Nihilo, on a voulu travailler. Ex Nihilo, c'est tout le contraire. Ça a été imprimé en Vendée. Donc, on a voyagé un peu. Et voilà, quoi. C'était aussi une volonté à terme de faire travailler la proximité, en fait. Voilà, jouer sur la proximité. Et d'ailleurs, la suite de Scolem, on a prévu une réédition déjà, parce que le tirage arrive en bout de course. Là, la suite de Scolem s'était tirée à 1000 exemplaires. Alors, je ne sais pas, toi, Georges, qui est dans ce domaine-là. 1000 exemplaires, c'est un petit tirage, quoi.
Bah, si vous... Oui, c'est un petit tirage. Mais ce n'est pas si petit que ça, parce que la moyenne maintenant, qui était peut-être il y a 10 ans, qui tournait à 7, 8 ou 15 ou 10 000, souvent les moyennes des tirages maintenant tournent à 3, 4 000. Hein. Même chez des très très grands éditeurs. Hein. On peut dire, en discutant avec des auteurs que je connais, qui sont édités par des maisons majeures, les ventes et les tirages sont relativement faibles.
Ouais. Donc oui, donc on a tiré
Mais alors, donc vous allez retirer le Scolem, et voilà. Moi je me souviens de ce que me disait quand même un éditeur, un bon livre est un livre épuisé.
Ouais.
Ça c'est bien.
Et voilà, donc la réédition de la suite de Scolem se fera sans doute certainement même
avec le 2.
Non, peut-être pas avec avant, non, parce qu'avant, parce qu'il y a, il faut qu'on le réédite.
Vous avez
avant.
De la demande?
Parce
ben
qu'il y a le diffuseur qui va prendre aussi...
Ah non, et puis vous avez de la demande, quoi.
Ouais, et on a la demande, oui.
Mais bon, pour en discuter, on discutera de ça un petit peu. Bon, ben voilà. Ben merci Jean-François, merci. Stéphane et Marek. Maintenant, je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, d'aller les voir. Ils seront un plaisir de vous les dédicacer. Alors, ils vous feront des jolies images dessus, magnifiques.
Oui, et puis on sera en dédicace...
À quelle heure?
En début d'après-midi, plutôt.
Hein. Ouais, parce que là, peut-être aller déjeuner.